à l'écoute de l'invisible, un témoignage d'hommes et de femmes habités par la prière, une émission proposée par Yann Bachelet.
Monseigneur Benoît, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes évêque de Pau et d'Aquitaine Provence pour l'Église orthodoxe. Comment se passe le culte orthodoxe ?
Alors, on pourrait parler des cultes orthodoxes parce qu'il y a eu depuis les origines différentes façons de célébrer ce que l'on appelle la divine liturgie ou la messe. Et selon les cultures, il y a eu différentes façons de célébrer la liturgie, même si la trame est toujours la même, c'est-à-dire qu'il y a la partie de la liturgie d'écoute de la parole, et première partie, pourrait-on dire, et la deuxième partie, la liturgie proprement eucharistique, avec le sacrifice de la messe, avec la consécration du pain et du vin en corps et sang du Christ. Voilà, et alors après, dans l'Église orthodoxe, qu'est-ce que l'on peut dire ? On peut dire d'abord que les messes sont toutes chantées, et en général chantées a cappella, il n'y a pas d'instruments, ou quelquefois des petits instruments d'accompagnement dans certaines liturgies, dans certains pays, mais généralement ce sont des chœurs qui chantent la liturgie, et quand le prêtre célèbre la liturgie, il psalmodie ou il cantile. Donc tout est chanté dans la liturgie.
Nous sommes dans l'église orthodoxe de Pau, là. Et il y a beaucoup d'icônes, de très beaux icônes.
Oui.
C'est important l'iconographie.
Ah oui, ça fait partie de la... Dans le culte, justement, ça fait partie de ce qui est important, parce que quand nous rentrons dans l'église, en fait, on pourrait dire que nous rentrons dans une partie spirituelle de notre être. L'autel signifie la tête, là où nous sommes dans le fond de l'église, ce sont les pieds, et puis dans des grandes églises, il y a des transepts qui imagent les bras, et donc l'église représente un être couché, tourné vers son Dieu. Et ce qui est important, c'est que nous goûtons la divine liturgie par les cinq sens. Alors il y a à la fois, bien sûr, l'écoute, le plus important, l'écoute de la parole. Il y a la vue, et justement avec les icônes, où nous voyons ceux qui sont des saints, où nous voyons le Christ, nous voyons la Vierge, et qui représentent les saints tels qu'ils sont vivants, qui représentent ceux qui habitent dans le ciel, et les icônes, ce sont donc des portes ouvertes sur le ciel. Et ce qui, bien sûr, nous aide pour notre prière liturgique et pour notre prière personnelle. Bon, après, bien sûr, les autres sens participent, puisqu'il y a les odeurs avec l'encens, il y a le toucher, bien sûr. Nous goûtez et voyez combien le Seigneur est bon, donc nous communions au pain et au vin. Voilà, nos cinq sens participent à la divine liturgie.
Par rapport aux catholiques, quelle est la différence, si on peut parler de différence, dans la prière orthodoxe ?
Ah, dans la prière. Alors, d'abord, nous pouvons dire que les orthodoxes sont aussi catholiques, c'est-à-dire que nous sommes église catholique, orthodoxe, et toutes les églises, même si on les appelle plutôt église orthodoxe russe, église orthodoxe grecque, elles sont aussi catholiques. Ouais. Dans le credo, elles disent... Nous disons tous, je crois, en l'Église une, sainte, catholique et apostolique, même si c'est avec des mots différents.
C'est ça.
Mais la traduction du mot catholique est bien présente.
Catholique, oui. Alors, quelle est l'importance de la prière ?
L'importance de la prière, eh bien, elle est double, parce qu'il y a à la fois la prière liturgique, c'est-à-dire la messe, les offices. Quand on est la liturgie, ça veut dire œuvre en commun, donc quand nous sommes en commun. Et puis, il y a la prière davantage qui est prière personnelle, prière dans son temple intérieur ou prière dans sa maison ou dans sa chambre. Alors, je crois que vous souhaitiez que l'on parle davantage de la prière personnelle.
Oui, et même la prière collective.
Et la prière collective.
Vous pourriez nous en parler aussi, oui.
Oui, alors, dans la prière liturgique, je vous disais tout à l'heure qu'elle est chantée, que nous prions avec des textes traditionnels, c'est-à-dire qu'il y a peu d'innovation, j'allais dire, dans la liturgie de l'Église orthodoxe. Il y en a, parce qu'on peut toujours faire évoluer, mais nous n'avons pas, comment dirais-je, trop d'improvisation liturgique. On n'a pas des groupes de personnes qui se réunissent. Je pense à l'Église catholique romaine, je pense aux réformés qui disent bah, « Tiens, aujourd'hui, on va célébrer de telle façon, on va choisir tel texte, etc. » Nous avons, par exemple, le cycle du temps liturgique traditionnel, tel qu'on pouvait le trouver en France avant Vatican II, avec les 22 ou 23 dimanches après la Pentecôte, avec les rogations, puisque ça existait, c'est une tradition ancienne dans l'Église des Gaules, avec les quatre temps. À chaque fois qu'il y a un changement de saison, on célèbre les liturgies des quatre temps, ce qui existait de façon ancienne dans notre pays ou dans nos pays d'Occident.
Est-ce que cette façon de prier peut décider d'une vocation pour un orthodoxe?
Ah, et qu'est-ce que vous appelez par vocation?
Pourquoi devenir orthodoxe et pas protestant, pas catholique romain?
Ah, d'accord. Ben là, vous savez, je crois que c'est l'Esprit Saint qui guide. Alors, bien sûr, certaines personnes peuvent venir ici, écouter la divine liturgie et dire, tiens, il y a quelque chose de traditionnel, il y a quelque chose de profond, et puis c'est ce que je cherchais. Alors, il y a des personnes qui arrivent ici en disant, ah, voilà, je me trouve chez moi. Et donc, effectivement, la personne peut se sentir appelée, fréquenter pendant un temps l'Église orthodoxe et puis dire « Ah ben tiens, je souhaite confesser la foi orthodoxe et je souhaite devenir orthodoxe ». Donc oui, c'est mon cas particulier. Je suis arrivé ici dans cette église il y a combien, 55 ans environ. C'était un soir de Pâques. Puis j'ai vu comment les orthodoxes célébraient la Pâques. Alors c'est assez extraordinaire. Avec le chant « Christ est ressuscité », la répétition de ce salut pascal entre les uns et les autres, « Christ est ressuscité », puis vraiment la joie pascale. Voilà, j'y suis toujours. Donc on peut dire, oui, c'était un appel à ce moment-là.
La vocation, ça vous gêne ce terme de vocation?
Non, mais je pensais que vous vouliez l'appliquer au fait que ce soit une vocation pour devenir diacre ou prêtre.
Non, une vocation, oui.
Non, c'est bien. Nous sommes appelés, oui, peut-être parce que nous avons déjà cherché, mais le Christ s'est bien utilisé par le Christ. Le Christ a appelé les apôtres, et eux se sont sentis appelés par le Christ, donc oui.
Est-ce que dans votre Église, on apprend à prier? Et comment?
Ah. Déjà, la première chose... Je dirais que c'est l'écoute, la participation au Saint-Mystère, la participation à la Divine Liturgie, forcément m'enseigne la prière, puisque la prière c'est la louange à Dieu, c'est le lien avec Dieu, et toute la liturgie c'est un dialogue, pourrait-on dire, entre l'homme avec Dieu, ne serait-ce que dire « Kyrie eleison », alors nous le disons en grec, mais... Seigneur, prends pitié, c'est une prière. Donc à force de le répéter quand nous faisons des litanies et nous terminons et tout le peuple dit Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, c'est une prière. Alors on pourrait le dire aussi en français, mais on a choisi de garder le texte grec, Seigneur, aie pitié, ou Seigneur, envoie-nous ta grâce, ou Seigneur, envoie-nous ta miséricorde. C'est une prière. Elle est courte, mais c'est une prière. Et puis après, il y a tous les textes.
Vous parliez de votre venue la première fois dans cette église de Pau. Quelle a été la prière pour vous la plus belle ?
À ce moment-là ?
Oui.
Ah ben à ce moment-là, je crois que j'ai répété le chant, et puis c'était lié avec le chant. Christ est ressuscité des morts, par la mort il a vaincu la mort, à ceux qui sont dans les tombeaux il a donné la vie.
Merci beaucoup. D'accord.
Voilà, ben ça c'était, si vous voulez, je crois que j'ai été marqué par la Pâque orthodoxe, et j'ai été marqué, et donc... Voilà, et j'étais, quand je suis arrivé ici, j'avais 21 ans, bon, j'étais un petit peu dans une période sombre de ma vie, ou sans espérance. Et je crois que la foi dans la résurrection, c'est
Vous avez
quelque
chose. Été élevé dans la foi ?
Oui.
Et vous avez eu un moment de doute de...
Bien sûr, oui. Disons que j'ai servi la messe petit, j'ai participé à des camps de jeunesse étudiante chrétienne, et puis à l'âge de 16-17 ans, vous voyez, l'adolescence, j'ai interrompu toute pratique religieuse entre 17 et 21 ans. Et puis en faisant des recherches, en allant justement voir qu'est-ce que c'était que la méditation en Orient, de voir peut-être ce que les hindous pouvaient nous apporter, ce que le yoga pouvait nous apporter. Et puis je bénis cette expérience-là.
C'est ça.
Surtout pour la prière, c'est intéressant aussi d'aller voir ce que font d'autres traditions.
Faire zazen, par exemple.
Oui.
Voilà, où on nous apprend à ne pas garder la pensée qui vient, la regarder.
Tout à fait.
Il faut la regarder, la laisser
tout
passer.
Tout à fait. On peut assimiler ça quand le Christ dit « Veillez et priez pour que vous n'entriez pas en tentation ». On pourrait dire la veille, c'est effectivement cette méditation, cette recherche de la pensée unique ou de la pensée vers Dieu ou la recherche du silence. On peut dire que ça, c'est la méditation. Et la prière, on va dire davantage que qu'il y a des mots avec la prière, mais... On peut prier sans les mots.
On peut prier en voiture. C'est pas dangereux.
Heureusement. C'est peut-être même une sécurité. Quoique, ça m'est arrivé une fois tout en priant d'avoir un accident. Mais bon, c'était peut-être parce qu'il manquait. C'était pas lié avec la prière. C'est peut-être parce que j'allais un petit peu trop vite.
Dans le culte orthodoxe, quelle est la gestuelle de la prière ? Y a-t-il une gestuelle précise ?
Ah, alors... On dit qu'il faut quand même être à l'aise pour la prière. Alors le Christ dit, tu veux prier, rentre dans ta chambre, ferme la porte. Bon, ça peut vouloir dire, ferme la porte aux pensées extérieures.
Ouais.
Bon, mais après, il y a des positions qui peuvent aider pour la prière. C'est sûr que si je suis avachi sur un fauteuil, c'est pas forcément l'idéal. Il faut peut-être mieux être droit. Donc on peut aussi prier, soit en étant debout et droit, soit en étant assis. Si on a une prière personnelle, on peut être assis, on peut éventuellement pencher sa tête vers le cœur. Bon, l'essentiel, je dirais, c'est pas forcément l'attitude, même si elle doit être droite. Alors les orthodoxes, ça veut dire la droite louange, oui, il est mieux d'être droit, au moins avec sa colonne vertébrale, qui est la colonne de l'être. Mais après, l'essentiel, c'est l'attitude intérieure.
Évidemment. Monseigneur Benoît, pour conclure, si on peut conclure sur la prière, on ne peut pas, mais qu'est-ce que vous conseillerez à quelqu'un qui n'arrive pas à prier ?
Ah.
Ou qui ne peut pas prier ?
Ah. Alors, il me vient tout de suite en tête, il me vient deux choses. D'abord, derrière vous, il y a une icône de Saint Julien de Lescar, qui était un premier évêque de Lescar. Et quand il est né au ciel, quand il est parti pour le ciel, un ange lui a dit cette prière, où il a entendu ceci, veille et tiens-toi. Alors c'est dans la lumière, car Dieu est avec toi. Veille et tiens-toi dans la lumière, car Dieu est avec toi. La veille déjà, et puis de tâcher d'élever son esprit vers la lumière, vers Dieu, c'est une attention à Dieu, c'est la première des choses. Ça, c'est, je donnerais celui-là comme conseil. Et le deuxième, c'est une prière quand même traditionnelle. Quelle est la prière la plus traditionnelle ?
Notre Père.
Ah, et alors je croyais cela. Mais alors un jour, notre archevêque pose la question à un groupe d'étudiants, ou quelqu'un lui pose la question plutôt dans le groupe en disant « Quelle est la prière de l'Église ?» Et j'aurais dit la même réponse que vous, le Notre Père. Il a dit « Les psaumes ». Et c'est vrai que les 150 psaumes de David, attribués à David, sont d'une grande richesse. Et lire un psaume, par exemple en ouvrant au hasard le psautier, ou en les lisant les uns à la suite des autres, je commence par le premier, le deuxième, le troisième, c'est vraiment une prière traditionnelle de l'Église.
Monseigneur Benoît, je vous remercie.
C'est moi qui vous remercie. Dieu soit béni.